À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, l'ORTF. Elle était sous le contrôle direct du ministre de l'Information, qui pouvait décider ou non du maintien ou de la suppression de telle ou telle émission. Maintenant, il y a plus de chaînes et le lien entre le pouvoir et l'ORTF à l'époque était pratiquement officiel. Il existe tout autant, il est tout aussi fort, mais il est beaucoup plus subtil actuellement.
Guy Philippon a été un membre dirigeant du PSU. Il a rejoint les Verts en 1998. Né en 1927, son histoire politique accompagne celle de l'une des branches à l'origine de ce que sont les Verts aujourd'hui.
J'en ai aussi une, donc j'en ai même sans doute plusieurs, qui en a tiré nous, qui est assez bonne, avec un écran de télévision, je t'en parlais je crois tout à l'heure, on voit De Gaulle sortir de l'écran, sa stature dépasse l'écran de télévision, avec son képi, il tient à la main un bâton, et je ne sais plus quel est le slogan, enfin, il est clair que c'est lui qui contrôle l'information. Et alors oui, ce qui a joué un rôle, mais bon ça... C'était raconté par beaucoup de gens. La télé était beaucoup moins répandue qu'elle l'est maintenant, quand même, hein. Mais ce qui a fait le succès des manifestations de mai 68, c'est que la plupart des gens, des jeunes, mais tout le monde, avaient des postes à transistor. Et par les transistors, les Radio Luxembourg ou Radio Luxembourg ou Europe, les deux peut-être, disait en direct, il y a en ce moment une manifestation à tel endroit, il est en train de se passer telle chose, il y a une barricade qui se monte. Donc ça permettait aux gens de se repérer et d'aller rejoindre les manifestations. Les transistors ont joué un rôle plus important encore que la télé, sauf que les interventions de Gaulle à la télé ont marqué des moments forts de mai 68. La première ratée, la première, c'est celle où il dit je vais faire un référendum et si je perds le référendum, je m'en irai. Il fait un chantage à son départ. Et à ce moment-là, moi je me souviens, j'y étais, il y avait une manifestation Gare de Lyon, qui est racontée dans beaucoup des bouquins d'histoire de mai 68, où. La foule, avec l'imagination de l'époque, se dit, bon, ça y est, il va partir. Et quelqu'un a l'idée de sortir son mouchoir, et toute la foule se met à agiter des mouchoirs blancs en disant, adieu De Gaulle, adieu, adieu. Tu vois, et donc cette intervention ratée, il rate son coup, il s'en rend compte. Hein, et par contre, celle qui est réussie, c'est celle où, au moment où le mouvement commence à s'essouffler, où il dit je dissous l'Assemblée, je ne partirai pas, et où il va gagner haut la main les élections. Mais j'étais prof, j'habitais donc ici. Pour aller à mon lycée à pied, parce que je disais il n'y avait pas de voiture, il fallait bien 3 quarts d'heure. Donc chaque jour, j'allais au lycée le matin, il y avait des assemblées générales d'élèves, de profs, d'agents. C'était la première fois que les profs, les lycées, les enseignants et les élèves se rencontraient dans des assemblées générales et avec des agents. Les agents avaient l'impression d'être méprisés par les profs. Ils nous appelaient les seigneurs, j'ai découvert ça à l'époque. Et donc, dans ces assemblées qui duraient toute la journée, dans plusieurs salles de classe, on réorganisait l'enseignement, l'histoire des notes, l'histoire des rapports pédagogiques, on refaisait l'éducation nationale. Et c'est que ce donc c'est pour ça que j'ai raté un certain nombre de manifestations. J'étais dans mon établissement et on discutait de toutes les choses qui concernent l'école. Je ne suis pas sûr qu'il y avait il y avait des groupes si quand même politisés. Mais la discussion portait plus sur l'éducation nationale elle-même. C'est que quelquefois que j'ai pu aller à pied aussi à des manifs du Quartier Latin. La prise de parole un peu partout, dans les rues, les lycées, les théâtres, on montre beaucoup actuellement les images de l'Odéon occupé, la Sorbonne, c'est une période de libération de la parole assez extraordinaire. Tu vois, le peintre dont je te parlais, c'est Georgin qui dessinait nos affiches. Voilà, si tu veux une affiche de l'atelier des Beaux-Arts. Ah, une affiche alors de l'atelier des Beaux-Arts, attends, je n'abîme pas que le papier est fragile, qui est en rouge et noir, avec comme texte en haut de l'affiche « Honneur et patrie » et à côté « Travail et crève ». On voit une foule, un rassemblement d'ouvriers avec un drapeau et de l'autre côté un patron caricaturé dans son rocking chair avec une jumelle qui les regarde de loin. Alors celle-ci, elle est aussi très virulente, la fille, avec le tampon. Elle a le tampon de l'atelier des Beaux-Arts. Elle représente un monument aux morts de la guerre de 14-18 avec le monument, un casque au-dessus et sur le socle du monument, mort pour rien, et en bas 1914-1918. Celle-ci, on la revoit dans tous les bouquins. Elle a été faite en multiples exemplaires. C'est une affiche Université Populaire où elle a une forme en pointe avec une série de personnages stylisés. Celle-ci, c'est sur l'école où on voit un panneau, style panneau de circulation, avec un petit garçon et une petite fille. Au fond, un point d'interrogation. Et en bas de l'affiche, quoi de changé? Pour symboliser que est-ce que l'école va changer ou a changé ou pas. Voilà la même sur fond bleu. Voilà. Ah oui, ça doit être. Voilà. Celle-ci a un texte un peu plus long. Elle est liée au budget 69, le budget devait être déjà préparé. Et donc elle est de l'atelier des Beaux-Arts aussi. On voit un casque, un CRS stylisé avec son casque décroché de sa cervelle. Et en haut de l'affiche, budget 69, point d'interrogation, 3000 flics, en dessous, aucun chercheur, la science sera bien défendue au CNRS. Les comités d'entreprise, les sections syndicales d'entreprise étaient interdites avant 68, tu vois bien. La société a commencé à bouger quand même. On s'est interrogé sur les prisons, on a posé ouvertement un certain nombre de sujets qui étaient tabous avant 68. Alors je dis pas que tout est résolu, hein, c'est vrai. On partait de loin et on partait aussi avec des partis, si tu veux. Je sais pas, tu as peut-être du mal à imaginer ce que c'était le PC sans stalinisme. C'était vraiment une église avec une structure forte, quelque part une secte de masse, mais une secte qui croyait, qui détenait toutes les vérités, pour lesquelles tous les autres étaient des salauds, des vendus au capitalisme. Ah ben si tu veux, par rapport à En 68, comment dire, les leaders du mouvement et les animateurs du mouvement, ils échappaient à son contrôle, ils avaient l'habitude, ils contrôlaient la CGT. La CGT était totalement une courroie de transmission. Tous les mouvements, il avait le mouvement de la paix était contrôlé par le PC. Il y avait pour une fois un mouvement qui échappait à sa tutelle. Donc ça, c'était intolérable. Et puis d'autre part, sur le fond, il sentait aussi qu'il y avait un certain nombre de problèmes sur lesquels il ne s'était jamais penché. Les problèmes du cadre de vie, les problèmes écologiques, disons, pour les langages actuels, ça n'avait été jamais leur préoccupation. Leur seule préoccupation était la production, l'usine, les rapports entre les travailleurs et les patrons. Ils découvraient qu'il y avait une série d'autres choses qui se posaient, qui leur échappaient, qu'ils ne contrôlaient pas. Et alors, ce qui est aussi net, c'est que en plus, ils étaient quand même méfiants vis-à-vis de ces étudiants qu'ils considéraient comme émanation de la bourgeoisie, ou comme. Et comment dire? Ils étaient encore extrêmement liés à tous égards, bien plus qu'en Italie ou ailleurs, ou à l'URSS. L'URSS considérait De Gaulle comme précieux dans sa lutte par rapport aux États-Unis, puisqu'il avait pris des distances avec le pacte atlantique. Il n'était pas un allié inconditionnel des États-Unis. L'URSS n'avait pas envie de voir De Gaulle partir et être remplacé par des gens plus atlantistes. Mitterrand ou le Parti socialiste, s'ils avaient pris le pouvoir, les gauchistes, ce qu'ils appelaient les gauchistes, ils ne savaient pas trop ce qu'ils pouvaient penser sur ce type de problème, quoi. Cohn-Bendit a été un animateur extrêmement important de la commune étudiante de 68. C'est souvent lui qui s'exprimait au mégaphone avec sa bouille ronde. Il passait très bien dans les médias, mais il y avait en fait un trio. On oublie actuellement bien les deux autres. Le trio qui apparaissait à l'époque, y compris dans les médias, c'était Cohn-Bendit en premier, c'est incontestable, Sauvageot qui était le président de l'UNEF, membre du PSU, et Gesmard, secrétaire du SNESUP, avait été exclu du PSU un an avant parce qu'il voulait rejoindre la FGDS. Enfin bon. Comment dire, Cohn-Bendit a été le leader qui entraînait le mieux le mouvement étudiant des trois quand même. Il était celui qui avait le plus d'impact, le plus de verve que les autres. Même si, alors, c'est ça qui est paradoxal, même si les autres avaient des troupes importantes derrière, Sauvageot avait le PSU, quelque part la CFDT, et le SNESUP aussi. Et lui, le mouvement du 22 mars de Nanterre, c'était une poignée de personnes qui avaient lancé le mouvement de mai 68, mais les troupes qui étaient vraiment sur la ligne de Cohn-Bendit étaient vraiment infiniment plus nombreuses. C'est sa personnalité qui a joué un rôle, sa personnalité propre quand même, hein. Il faut dire il y a des talents d'orateur, de tribun. Moi j'ai le souvenir de la fin et en même temps du sens politique. Parce que je pense que s'il n'y a pas eu de mort en 68, c'est dû à Grimaud, le préfet de police, qui a su contrôler les forces de police, mais c'est dû aussi au leader du mouvement, dont Cohn-Bendit, qui a su éviter les dérapages un peu dangereux, qui a toujours été à la fois provocateur et poussant à des actions, l'occupation de la Sorbonne et autres, mais en sachant où ne pas aller trop loin. Je pense qu'il faut lui reconnaître ce rôle, hein. Il dit clairement qu'il regrette un certain nombre de thèmes qu'il a développés à cette époque, comme élection piège à con, comme des trucs très excessifs. Donc d'une part, il n'a pas trop envie de se retrouver dans l'optique d'un révolutionnaire qu'il assumait à l'époque. Il se veut réformiste, donc c'est quand même aussi pour ça qu'il ne veut pas assumer complètement ce qu'il a été. Mais en même temps, moi je l'ai entendu, des fois où je l'ai entendu, je pense qu'il ne rejette pas complètement cette période, et il a raison quelque part de dire que bon, on ne peut pas. La période est différente. 68 a été une année importante dans le monde entier. Il n'y a pas que la France, il y a eu le printemps de Prague qui est connu. Après, avant, il y a eu des mouvements en Allemagne. Et on peut dire que les Grünen sont nés du mouvement de cette époque, du mouvement de 68. Pour la France, à mon avis, les racines des Verts, les racines de l'écologie sont présentes dans mai 68, mais elles mettront plus longtemps à se concrétiser. Et beaucoup d'adhérents verts n'ont pas connu 68, ils n'étaient pas nés pour beaucoup d'entre eux, d'autres étaient tout jeunes, et leur vision de 68 dépend beaucoup du milieu dans lequel ils étaient à l'époque, de la région où ils étaient, et très variable sur cette perception des événements. Et je pense qu'il est dommage qu'il ne s'y intéresse pas davantage. Pour certains, le fait qu'ils étaient alors en province, et peut-être dû à leur famille, mettent l'accent sur la violence de mai 68, alors que c'est ahurissant. En mai 68, alors que c'était un mouvement, des manifestations dures, et barricades quand même dans la rue, voitures incendiées, il n'y a eu aucun mort vraiment. Il y en a eu un à la fin de 68 et qui est encore un mort, si on peut dire, c'est Gilles Totin qui, en fuyant les CRS, est tombé dans la Seine, s'est noyé. Et il y a eu un mort véritablement dû à 68, c'est pas à Paris, c'est à Lyon, où un commissaire de police, où les manifestants ont lancé un camion dans une descente, ce qui pouvait être très dangereux, et un commissaire de police a voulu arrêter le camion, il est monté dessus, ou il s'est fait écraser par le camion. Donc il y a un commissaire de police qui a été tué, un étudiant, tout à la fin de 68, je ne sais même pas si c'est pas en juin, et deux ouvriers de Peugeot en juin. Mais c'était pas lié à 68 directement, c'était lié aux luttes qui ont continué à Peugeot après 68. Donc, alors, pour certains, c'est l'image qu'on leur a imposée, c'est une image de violence. Et c'est vrai que, bon, il y a eu des manifestations, mais l'image essentielle de 68, c'est quand même la liberté de parole, la fête, la communication, l'imagination. Plus que la violence. Et la violence, en plus, elle était limitée. Elle a été limitée au quartier latin, elle a été limitée à la Bourse qui a été brûlée, mais bon, c'est un des endroits très limités de Paris. Et pour d'autres, ce que a voulu mettre en scène la droite et peut-être le parti de gauche, le fait que le 68, c'est le départ du libéralisme. 68, on a dit, il est interdit d'interdire. Ça a mis en vedette le libéralisme, ce qui me paraît complètement stupide. 68 était un mouvement libertaire, c'était un mouvement collectif, plus grande grève ouvrière, donc ça n'a rien à voir. Et puis le libéralisme, il a été imposé par le libéralisme économique, par les relations mondiales, par l'économie, et pas par le fait de mai 68. Mais puis pour d'autres, il y a un désintérêt. Ça paraît une histoire d'anciens combattants. C'est peut-être un peu comme moi quand j'entendais les combattants de 14-18 raconter leur guerre de 14.